pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Votre actualité pour votre journal de la philo aujourd'hui, c'est finalement un thème qui revient tous les jours. Il y a tous les jours la journée mondiale de quelque chose. Et donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de quoi ?
De l'eau.
Ah, de l'eau.
C'est la journée mondiale de l'eau. On est le 22 mars, donc c'est la journée mondiale de l'eau. C'est une journée instituée par l'ONU en 1994. Le thème 2018 est « L'eau, la réponse est dans la nature ». L'idée étant de répondre aux problèmes de l'eau, inondations, sécheresses, pollution, en prenant en compte plus largement les écosystèmes, forêts, plaines, humidité, etc. Et des problèmes, l'eau en a. Pénurie en Inde, en Afrique du Sud et au Brésil, eau usée déversée dans les rivières et la mer, eau contaminée ou difficile accès à celle-ci, comme l'explique le président du Brésil, Michel Temer, lors du 8e Forum mondial pour l'eau, qui a lieu en ce moment même.
Nous devons concentrer nos efforts en faveur d'un monde dans lequel l'eau serait pour tous. Assurer l'accès à l'eau et assurer la dignité, c'est l'objectif qui nous réunit ici à Brasilia.
Comme toute ressource naturelle, l'eau est mise à l'épreuve de problèmes écologiques et politiques, et ce parce qu'elle est un des quatre éléments essentiels à notre survie physique, mais aussi à notre vie psychique, symbole de la mobilité ou de ce qui ne change pas, je pense bien sûr à Héraclite, berceau maternel, source vive, purificatrice et régénératrice, flot apaisant ou tempête rugissante. C'est cette fois-ci à Bachelard que je pense, qui avait su en parler dans l'eau et les rêves et dans ses causeries.
L'attachement que nous avons à la beauté de l'eau est fort de mille liens. Nous allons voir s'accumuler les attraits les plus divers, les attraits les plus contraires, de sorte que notre amour pour l'eau est peut-être le plus ambivalent des amours. Ainsi, l'eau sera aimée dans ses reflets et dans sa profondeur, dans son repos et dans son tumulte, dans sa substance et dans sa force.
On pense souvent à Bachelard quand il s'agit d'évoquer l'eau en philosophie. L'eau et sa puissance évocatrice, sa capacité à ouvrir l'imagination et à créer des images persistantes, eau dormante, profonde, maternelle ou violente. L'eau occupe bien cette place intime, sensuelle et poétique dans laquelle peuvent s'enraciner les préoccupations écologiques et politiques. Mais elle est irréductible à celle-ci, tout comme elle est irréductible à son approche scientifique. Ivan Illich, dans un texte intitulé « H2O, les eaux de l'oubli » qui est paru en 1988, critique ainsi cette réduction de l'eau à sa formule brute. Elle est plus que ça, nous dit-il, elle déborde. Mais comment donner forme à cette eau sans cesse mouvante, contradictoire et ambivalente, comme le souligne Bachelard? Faut-il s'en tenir à sa pure évocation et perception, à son pur mouvement? C'est le problème philosophique de l'eau, celui d'un informe qui creuse pourtant son sillon, qui file entre les doigts mais qui a pourtant une épaisseur et n'échappe pas comme l'air s'envole. L'eau est à la fois pesante et légère, présente et absente. Prenez par exemple cette chute d'eau qui ne cesse de s'écouler mais que l'on n'entend plus. Prenez par exemple la mer constituée de milliers de vagues. Entendez-vous chacune de ces vagues, chacune des gouttes qui la composent? C'est la question que pose Leibniz dans ses nouveaux essais sur l'entendement, c'était en 1704, indiquant par là la profondeur inaccessible de l'eau, ce qui nous fait perdre pied avec elle même quand on essaie de seulement la toucher.
Alors, à travers les vagues, ils virent son long fantôme s'évanouissant comme dans les brouillards de la fée Morgane. Ses trois mâts seuls, hors de l'eau, tandis que cloués par leur entêtement ou par une sorte de fidélité à leur perchoir hautain, les harponneurs païens gardaient leur vigie dans l'engloutissement même. Des cercles concentriques saisirent le canot solitaire et tout son équipage. Chaque rame qui flottait, chaque lance, animée et inanimée, se mirent à tourner en une ronde qui emporta hors de vue la plus petite épave du Pequod.
La littérature et Moby Dick de Melville en fait partie. Peut assumer toute cette approche poétique de l'eau, ses tempêtes, ses menaces, ses abîmes ou ses réconforts. Bachelard et Illich assumaient aussi cette approche métaphorique de l'eau, mais il y a une autre approche encore que j'ai découverte en me penchant sur ce problème de l'eau, c'est celle d'une géographie de l'eau et que l'on doit à Kant. Alors oui, le saviez-vous, Kant a aussi été professeur de géographie, je ne le savais pas, et on lui doit toute une géographie mathématique d'abord, où il parle de l'eau, de la terre et de l'air, et une géographie morale ensuite, où il parle du caractère des hommes en fonction des régions habitées. La présence de l'eau, son abondance, son accès, sa qualité sont ainsi autant de données mathématiques qui dessinent une géographie morale de l'eau. Et cette eau fait partie, je cite, de ce monde, de ce théâtre sur lequel nous entreprenons nos expériences, expériences donc intimes, scientifiques ou politiques.
La géographie morale de l'eau, par contre, ça vous plaît, ça, Géraldine ?
Ah, ça me plaît, je connaissais pas du tout ça, ça me fait penser à Montesquieu, à la théorie des climats, je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner.
Bon, bah, c'est un sujet pour un prochain journal alors. En tout cas, celui-ci est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.